Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Fabrice.
Bonjour Isabelle et puis bonjour à tout le monde.
Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des océans, à la découverte des coraux. Et plus largement, d'un biotope fragile désormais soumis à ce que l'on nomme l'acidification des eaux et à la pollution plastique.
Des problématiques très importantes et les coraux en l'occurrence sont des écosystèmes sous-marins extraordinaires. On le sait qui à eux seuls représentent, et c'est important, 30% de la biodiversité des océans.
Comment les récifs coralliens fonctionnent-ils? Pourquoi est-ce si important de les protéger? Quelle menace plane sur ces joyaux calcaires des mers?
Pour en parler, nous recevons Sylvain Agostini en direct, et ce n'est pas rien, depuis l'université de Tsukuba au Japon, où il est assistant professeur depuis 2012 en qualité de chercheur en biologie et écologie marine. Il a également coordonné, ce n'est pas rien non plus, l'expédition Tara Pacifique menée par la fondation Tara Océan.
Et dans un deuxième temps, on revient plus près de nos côtes sur la problématique du plastique en Méditerranée avec l'un des membres fondateurs de Marewiu, association basée dans le Cap Corse, j'ai nommé Pierre-Ange Duigelli.
Sabienza, l'invité.
Bonjour Sylvain Agostini.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci infiniment d'être à nos côtés avec beaucoup de décalage horaire. Donc on vous est extrêmement reconnaissant d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Sylvain. Qui n'est autre que le frère de notre jardinière, Laetitia Agostini. On le signale parce que ça nous fait plaisir, surtout qu'elle vient d'avoir son concours. On la félicite, j'imagine que vous vous associez à nous, Sylvain.
Exactement. Ben moi, ça me fait plaisir de pouvoir participer à cette émission et de pouvoir parler des coraux et de la signification avec tout le monde. Et ça me fait plaisir aussi que ma sœur ait eu son concours. Bien sûr, félicitations.
Avant de commencer et de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet de vos recherches et puis de ces préoccupations qui sont effectivement majeures hein, au niveau de la biodiversité marine, Sylvain, qu'est-ce qui amène un chercheur comme vous à faire un si grand pas pour aller du côté du Japon depuis plus d'une quinzaine d'années, je crois?
Ça va faire 18 ans maintenant que j'habite au Japon, je crois. Je suis allé pour mes études, tout simplement. Pendant mon master, j'étais à l'université d'Aix-Marseille, à l'UMINI. Mmh. Et après, j'ai fait mon stage de master deuxième année, enfin de DEA à l'époque, au Japon, et je suis resté.
Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, le DEA, le DESS, les masters, quoi.
Avec justement, précisément, sur les objets de recherche qui vous préoccupaient déjà à l'époque lorsque vous avez fait ce chemin vers le Japon, l'idée d'aller travailler là-bas sur des écosystèmes marins très particuliers, propres à ce biotope.
Alors au départ, je ne travaillais pas sur les coraux pendant justement mon master. Je travaillais sur les cyanobactéries de l'écosystème pélagique.
D'accord.
Et en fait, c'est durant mon doctorat que je me suis reconcentré sur les coraux et surtout le rôle des bactéries pour la santé des coraux. Et de plus en plus, malheureusement, on ne peut pas ignorer les effets du changement climatique, de l'acidification, de la pollution sur ces écosystèmes. Et c'est comme ça que ma recherche s'est de plus en plus focalisée sur ces thématiques.
Et pour le coup, on va vraiment y rentrer avec vous de plein pied ou de pleine palme dans ces problématiques liées aux coraux. Ce sont pour le coup des indicateurs très très intéressants, c'est-à-dire ce qui va se passer au niveau marin et qu'on va pouvoir noter sur les coraux va vraiment nous dire des choses plus largement même.
Oui, tout à fait. Ce sont des organismes qui sont très sensibles, en fait, qui ont par exemple une plage de température, je dirais, où ils sont en bonne santé, très restreinte. Alors si la température est trop chaude, peut avoir du blanchissement du corail, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur microalgues symbiontes. Mais aussi là, une température trop froide, pareil, blanchissement et souvent mortalité. Donc ça, du point de vue température, du point de vue de l'acidification, on va en parler peut-être plus en détail plus tard, mais là aussi ils sont relativement sensibles, même si on connaît moins les effets à long terme que roi de l'acidification des océans sur ces organismes, on sait tout de même qu'ils sont impactés, surtout du niveau de la calcification, c'est-à-dire la croissance qui va être ralentie. Les récifs coralliens, c'est en fait c'est un relief géographique à l'origine, c'est de la géologie. C'est-à-dire que c'est cette accumulation de calcaire, comme vous venez de dire, qui forme un récif. Ce calcaire, il vient d'où? Il vient des coraux, notamment, ces organismes eux-mêmes, cet animal, le corail, mais aussi d'algues corallines et d'autres organismes qui vont solidifier tout ça. Maintenant, les récifs coralliens, c'est aussi un écosystème. C'est un écosystème formé par les coraux. Donc, ils sont vraiment au centre de l'écosystème car ils vont y donner sa structure, une structure 3D qui va permettre de créer de l'habitat pour des invertébrés, des poissons, etc. Donc quand on parle des récifs coralliens, on parle souvent de l'écosystème. Et après, il faut bien faire la différence avec les coraux eux-mêmes, qui sont des animaux qui vivent en symbiose avec des micro-algues.
Est-ce que, ça c'est assez passionnant hein, malgré tout Sylvain Agostini, parce que tout le monde, oui, peut avoir en tête que le corail est un animal, c'est pas forcément intuitif, hein, quand on voit effectivement le côté, en tout cas sessile, hein, ancré de cet organisme. Comment ça fonctionne? C'est plein de petits polypes finalement qui accrochés donnent ce qu'on appelle le corail, mais ce sont plein d'entités individuelles animales, ou c'est un seul gros animal qui peut faire des kilomètres carrés?
Alors les coraux sont des organismes coloniaux, c'est-à-dire ce sont des colonies de petits polypes. Alors un polype, ça ressemble un peu à une anémone, si vous voulez. Il va y avoir des tentacules, une bouche et une cavité gastrique, un estomac, si vous voulez. Et ces polypes, ils peuvent se reproduire asexuellement, c'est-à-dire qu'ils vont se multiplier, ils vont créer des petits polypes. Donc à l'origine, il va y avoir un polype qui va se multiplier. Et tout en se multipliant, ils vont garder contact entre eux, je dirais. Ils vont partager un squelette, déjà, qu'ils fabriquent à travers la calcification. Et c'est ça que l'on voit à l'échelle macroscopique, je dirais. C'est cette colonie de polypes qui forme la colonie de corail. Après, ils peuvent aussi se reproduire sexuellement aussi. Ils vont relâcher du sperme et des ovules et des gamètes, en gros. Et ça va donner une larve qui est planctonique, qui peut s'accrocher après sur le récif et redonner là, en premier, un premier polype qui va se multiplier, etc.
On en trouve partout, Sylvain, des coraux.
Alors là, aujourd'hui, je pense qu'on parle des coraux peu profonds, surtout tropicaux, parce qu'il va y avoir des coraux profonds aussi qui ne forment pas de récifs, qui n'ont pas d'algues symbiotiques non plus, qu'on est encore moins, et on découvre des récifs, des véritables récifs de coraux profonds. Il y a aussi le corail rouge, par exemple, qui est une autre famille, qui sont des ectocoraux, alors que je pense qu'aujourd'hui, on parle plus des hexacoraux. Et ces coraux, donc formeurs de récifs, on les trouve surtout dans les zones tropicales ou subtropicales. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple au Japon, c'est une des raisons aussi pourquoi le Japon c'est si intéressant que ça, c'est que l'on peut trouver des coraux sans récifs coralliens. Où j'habite, on a des coraux qui vivent peu d'espèces et peu en abondance, mais on n'a pas de récifs coralliens puisqu'il n'y a pas assez d'accumulation de calcaire pour créer le récif. Mais en gros, on va trouver des coraux des zones tropicales jusqu'à, je dirais, 35 degrés nord et pareil dans le sud en termes de latitude.
En Méditerranée, on en a, pour parler de la Corse par exemple et de son environnement direct, forcément, il y en a aussi, autant que dans les autres mers du monde.
Alors, en Méditerranée, il y a des coraux hermatypiques, donc formeurs de récifs. Là encore, il n'y a pas de récif corallien, mais c'est vrai qu'il y a quelques espèces. Après, il y a un corail endémique, Astroides calcicularis, qui est vraiment endémique de la Méditerranée, qui n'a pas de zooxanthelle, mais qu'on trouve, c'est un corail très orange. Et après, il y a des Banophilia, des coraux vraiment avec zooxanthelle, mais encore une fois, il n'y a pas de récif corallien.
Nous sommes avec Sylvain Agostini, à nos micros, dans Sabienza. On vous retrouve, Sylvain, dans un court instant.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inottipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non
c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare.
Come profondo il mare, chanson de circonstance sélectionnée par notre réalisateur à la programmation musicale aussi dans Sabienza, Doumé Mourat.
Sabienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
On accueille un chercheur en biologie et écologie marine depuis le Japon. Sylvain Agostini nous fait l'amitié d'être à nos micros pour nous parler des coraux, Fabrice.
Oui, avec une question, Sylvain, qu'on se posait pendant cette pause musicale avec Isabelle. On a vu combien cette biodiversité et cet écosystème était un bio-indicateur important. Et au final, qu'est-ce qui fait que les coraux sont en danger? Est-ce que c'est uniquement le réchauffement climatique et donc le réchauffement des mers? Ou est-ce qu'il y a également, au-delà, une problématique anthropique de pêche, de surpêche, de dégazage particulier qui les fragilise?
Bien sûr, on ne peut pas ignorer le premier problème global et le réchauffement climatique qui cause des pertes énormes en termes de coraux. Et les dernières prévisions du GIEC prédisent que l'on va perdre 75% des récifs coralliens avec une augmentation de la température de 1,5 degré et 99% des récifs coralliens si on ne peut pas maintenir en deçà de 2 degrés. Donc c'est sûr que la température, c'est un problème énorme. Et je dirais que sur ce fond d'augmentation des températures, les activités humaines rajoutent des stresseurs locaux, qui sont la surpêche, parce que pour un récif corallien ou pour tout écosystème, il faut vraiment un équilibre écosystémique qui nécessite une communauté de poissons, par exemple, bien présente. Et après, il y a toutes les formes de pollution ou d'aménagement des côtes qui viennent donc se rajouter. Ensuite, il y a aussi le cousin du réchauffement climatique, qui est l'acidification des océans, qui a la même origine, qui est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et là aussi, il y a de plus en plus de preuves que l'acidification est déjà en train d'impacter les récifs coralliens et les coraux en général, et dans le futur, ça ne va qu'augmenter.
Ça fait peur hein, quand on vous entend, Sylvain, et qu'on entend qu'en dessous enfin très proche de 2 degrés qu'on pourrait prendre au niveau de la température en augmentation, c'est 99% de ces récifs qui pourraient disparaître, avec en cascade la biodiversité, on l'a dit, qu'ils hébergent. Et en fait, on a l'impression que le grand public ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est sous la mer. Mais si on faisait l'équivalence au niveau terrestre avec la disparition de forêts, ça nous peut-être mobiliserait davantage. Hein, si on imaginait que des forêts disparaissaient, on les verrait et puis on comprendrait tout ce qui est en cascade disparaîtrait. Mais là, les coraux, c'est au moins aussi grave en termes de biodiversité.
Tout à fait, en termes de biodiversité et à l'échelle humaine, je dirais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui dépendent pour leur vie des récifs coralliens. Tous les pays, les petites nations insulaires, par exemple, qui sont souvent des pays en voie de développement, beaucoup ont leur source de protéines par la pêche dans les récifs coralliens, ont leur côte protégée par les récifs coralliens, etc. Donc c'est vraiment une catastrophe humaine aussi.
À défaut d'imaginer un changement au niveau de ce réchauffement climatique notable et suffisant, peut-on penser que les coraux trouvent le moyen de survivre à cette acidification des océans ?
Alors, qui sont très intéressantes. Alors, du point de vue de l'acidification, on n'est pas encore sûr, mais il est sûr que la réponse des coraux à l'acidification est spécifique, c'est-à-dire elle dépend de l'espèce, et l'on trouve des espèces qui sont plus résistantes à l'acidification que d'autres. En même temps, on peut aussi le dire pour la température. Et on trouve aussi des récifs qui sont exposés à des taux de CO2, à des températures qui sont déjà plus élevées que la moyenne, je dirais, qui sont plus proches de ce que l'on aura dans le futur. Et il y a certaines espèces qui arrivent à survivre même à ces fortes températures ou à ces forts taux de CO2.
Il y a bien souvent, effectivement, oui, des choses qui vont trop vite. Hein, c'est ce qui permet parfois pas assez aux espèces de s'en sortir. Mais là, vous notez qu'il y a voilà, une adaptation quand même qui, c'est peut-être une chance, arrive à se faire malgré la rapidité du système. On voulait vous interroger, Sylvain Agostini, avec Isabelle également, sur la question de la pollution plastique, parce qu'on sait que vous avez travaillé dessus lors de vos différentes missions. Elle est alliée, cette question de la pollution, au problème d'acidification et de réchauffement.
Oui, c'est tout des stresseurs, malheureusement pour la pollution plastique maintenant aussi globale. On ne peut pas l'ignorer, c'est de partout dans le monde et de partout aussi dans les récifs coralliens aussi. Ça revient de l'activité humaine. Après, vous savez, le plastique est fait à partir, pour la plupart, hein, à partir de produits, c'est un produit pétrochimique. Quand on consomme du plastique, même si on le jette à la poubelle, après il est brûlé, malheureusement trop souvent. Et ça rejette du CO2. Donc, en gros, tout est lié. L'effet pollution microplastique sur les coraux eux-mêmes, sur l'organisme, il n'est pas du tout clair, comme sur la plupart des organismes. On sait qu'il y a eu des études qui ont montré que le coraux pouvait ingérer du plastique. Il y a aussi des études qui ont montré que, bon là, c'était plus pour du macroplastique, mais qu'une forte présence de macroplastique, hein, de sacs poubelles, par exemple, quoi que ce soit, dans un récif, est accompagné avec une augmentation des maladies du corail, parce que le corail peut être malade. Donc il y a pas mal d'informations qui montrent un effet assez nocif de la pollution plastique aussi sur les récifs coralliens et sur les coraux eux-mêmes.
Quelles sont les actions qu'on peut imaginer à notre échelle pour préserver cette biodiversité marine ?
Alors la première action, je dirais, c'est de voter, hein, parce que le problème du CO2, c'est un problème sociétal. On ne peut pas le résoudre sans un changement dans notre société. Après, sur ce problème global, ça n'arrange rien quand on rajoute des problèmes locaux. Donc, on peut agir localement sans devoir totalement changer notre société. Et ça va déjà aider quand même aux récifs ou aux écosystèmes marins en général à résister aux changements climatiques. Concrètement, c'est sûr que réduire notre émissions individuelles de CO2, c'est important. Réduire, par exemple, la consommation de plastique, mais notre consommation est aussi importante parce que consommation est énergie et CO2. Et après, je pense que peut-être le plus important, c'est d'aller dans la nature et d'apprendre la beauté dans la nature et se faire plaisir un peu dans la nature, parce qu'après, une fois qu'on connaît la nature, on aura moins envie de la détruire et plus envie de la protéger.
Oui, c'était le commandant Cousteau qui disait que voilà, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc l'idée d'aller effectivement au contact de la mer ou de la terre, parce que vous le dites également, Sylvain, dans vos interventions, dans vos conférences, quand vous adressez également aux jeunes publics, quand on vous demande de faire de la vulgarisation et que vous répondez présent, tous les problèmes de la mer sont issus de la terre.
Oui, tout à fait, oui. Ça, au Japon, il y a un concept que l'on appelle Sato-Umi, c'est le village et la mer, où les activités du village, de la ville, ont un impact direct sur les écosystèmes marins. Et c'est un concept qui n'est pas très, très développé en Occident, moins du moins, mais je trouve ce concept très intéressant parce que tout est lié. Ce qu'on fait sur Terre aura un impact sur la mer, qui peut être positif aussi. Hein. C'est positif si on crée une zone marine protégée, si on évite un effluent, nos polluants, etc. Ça peut être positif, ça peut être négatif aussi, malheureusement. Et après aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un seul océan. Hein. Tous les océans sont connectés, en fait. Et donc, ce qu'on fait d'un côté du monde peut avoir un impact de l'autre côté.
L'effet papillon, presque. Et Sylvain Gossigne, est-ce qu'artificiellement, on pourrait imaginer booster la reproduction des coraux dans des labos, éventuellement, ou ça, c'est pas envisageable?
C'est tout à fait envisageable. Alors, nous, moi, j'ai un projet où on utilise des écosystèmes assez particuliers. Par exemple, on a aussi en Méditerranée, je collabore avec des chercheurs à l'Université de Palerme, où on en a au Japon, c'est par exemple des volcans, donc à l'île de Vulcano ou l'île de Shikine ici, on a des émissions de CO2 sous-marines et donc on a des écosystèmes qui sont déjà acidifiés. Et dans ces écosystèmes, parfois on trouve des espèces de coraux qui sont résistantes. Donc on pourrait penser les sélectionner, les faire reproduire sur Terre, en aquarium par exemple, pour repeupler des écosystèmes. Il y a pas mal de chercheurs aussi qui poussent cette voie que l'on appelle l'évolution assistée, par exemple. Sélectionner des individus, des populations ou des espèces résistantes pour repeupler. Maintenant, ce n'est pas cela qui va sauver les récifs coralliens. Parce qu'il y a un problème d'échelle. On ne peut pas repeupler la grande barrière de corail australienne. On ne peut pas repeupler la Polynésie française. Ce n'est pas faisable, mais est-ce qu'on peut envisager, essayer de sauvegarder une sorte de cet organisme pour les générations futures? Ça peut être une des solutions, comment dire, de conservation minimum, je dirais.
Sylvain Agostini, à nos micros, depuis l'université de Tsukuba, au Japon.
RCFM, Sabiens.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands,
to show you everyone. It's the time of the season for
what's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Be rich.
Is he rich like me? Has he taken
us? Has he taken
any time?
Any time
to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
what's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Here
is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Season, c'était The Zombies sur RCFM.
Faisons le plein de connaissances dans Sabiens sur RCFM.
On s'intéresse à la passionnante question des coraux avec Sylvain Agostini depuis le Japon, chercheur en biologie et écologie marine. Vous avez, Sylvain, également coordonné l'expédition Tara Pacifique menée par la fondation Tara Océan, sur laquelle on reviendra dans un court instant. Auparavant, j'aurais aimé que vous nous parliez d'une journée type chez vous de travail, partagée, je l'imagine, entre labo, expédition, bureau et plongée sous-marine aussi.
Ça serait si bien si toutes mes journées avaient de la plongée, des expéditions, etc. Je passe quand même beaucoup de temps au bureau, sur l'ordinateur. Je m'occupe de mes étudiants. Mais après, c'est vrai que je fais aussi du terrain. Alors, mon approche de recherche est quand même basée autour du terrain. C'est-à-dire que j'aime observer déjà. Je pense que la première étape, c'est vraiment d'observer la nature. Et après, j'essaie de comprendre les phénomènes écologiques que l'on voit à travers l'expérience. Alors, ça peut être des expériences sur le terrain, donc là encore en plongée ou sous l'eau, ou des expériences en aquarium. On a un contrôle beaucoup plus fin des caractéristiques environnementales. Et après, une fois qu'on a obtenu les données, qu'elles soient sur le terrain ou en aquarium, c'est traitement des données sur l'ordinateur.
Est-ce que vous avez des zones, on se posait également la question avec l'équipe ici qui vous reçoit à distance, est-ce que vous avez des zones de recherche privilégiées? Vous travaillez uniquement sur le Japon, en l'occurrence, et sur les mers alentours, ou est-ce que vous partez aux quatre coins du globe, je dirais, y compris sur des colloques, des choses, pour étudier plus largement ces écosystèmes qui vous passionnent?
Alors, l'expédition de Tara Pacifique, c'est une expédition où on était plus de 200 participants. Et là, l'expédition a couvert tout le Pacifique. Bon, je ne suis pas allé de partout, hein, bien sûr, mais l'expédition elle-même couvre tout le Pacifique. Après, j'ai un autre projet où on collabore beaucoup avec l'UNESCO, qu'on appelle ICONA, c'est International CO2 Natural Analog. C'est ces écosystèmes acidifiés naturellement. Et là, c'est vrai que ça m'emmène un peu de partout, beaucoup dans l'Indo-Pacifique quand même, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Palau, Nouvelle-Calédonie, bien sûr Japon, mais aussi en Méditerranée, par exemple. Donc, pour essayer de comprendre un phénomène global, que ce soit l'acidification, le réchauffement ou la pollution en général, il faut quand même comparer beaucoup d'écosystèmes et beaucoup d'organismes pour essayer d'avoir une idée de la direction générale pour pouvoir généraliser ce que l'on observe. Donc, beaucoup de ma recherche est au Japon, Mais je sors aussi un peu quand même du Japon pour aller étudier d'autres écosystèmes un peu plus loin.
À mon avis, vous êtes l'un des Corses contemporains qui voyageait le plus, hein, quand vous nous donnez les miles que vous parcourez pour vos travaux. Vous parliez on a parlé tout au long de ce début d'émission des coraux comme bio-indicateur important. Vous citiez l'importance aussi d'aller voir un peu partout ce que les organismes ont à nous raconter de cet état de santé de ces mers du globe. Est-ce qu'il y a précisément d'autres organismes que les coraux qui sont également de très bons vecteurs d'information?
Alors, moi, je me spécialise plus sur les coraux, mais là où j'habite, je ne suis pas en zone tropicale, par exemple. Je suis à la limite entre la zone tropicale et la zone tempérée. Et c'est un lieu assez exceptionnel parce qu'on a un mélange d'espèces tropicales et d'espèces tempérées. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'un écosystème marin tempéré, c'est un écosystème dominé par les algues, notamment les laminaires, c'est ce qu'on appelle les forêts ou le varech. Et des espèces tropicales, on a des coraux. Donc, jusqu'il n'y a pas longtemps, on avait cette cohabitation assez exceptionnelle de varech et de corail. Dans une même plongée, on pouvait passer d'une forêt d'algues à une communauté de corail. Et malheureusement, avec l'augmentation de la température, dans les trois dernières années, là en face de chez moi, on a perdu toutes les algues, les grandes algues laminaires ont disparu. Et ça, c'est un phénomène mondial aussi. Ces forêts d'algues sont en train de disparaître des zones tempérées. Et peut-être qu'elles trouvent un peu refuge dans des zones plus au nord, mais leur distribution est en train de diminuer à une allure énorme.
Avec quelles conséquences ?
Conséquences, alors déjà conséquences pour les communautés qui vivent de ces algues. Je parle des communautés humaines là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on protège l'environnement, c'est protéger nos sociétés. Hein. Quand il y a un récif qui meurt, quand il y a une forêt d'algues qui disparaît, c'est une communauté locale qui va être impactée. Moi, je vois les pêcheurs locaux, ils n'attrapent plus les mêmes poissons, ils attrapent des poissons plus tropicaux. Les abalones, c'est fini, il n'y en a plus, parce que les abalones se nourrissent de ce varech. Après, c'est toute notre société qui doit s'adapter à ces écosystèmes qui sont maintenant dégradés.
Sylvain Agostini, est-ce que vous êtes confiant ? En demain, quand on vous entend sur ce diagnostic qui fait peur, hein, avec en trois ans, vous, sous votre nez, quasiment face à votre labo, votre lieu de vie, en tout cas, des forêts d'algues qui ont disparu, laminaires en l'occurrence, vous nous avez parlé de ces 2 degrés qui seraient catastrophiques pour 99% de la biodiversité coralligène ou de corail. Confiant ou malgré tout, vous, en l'homme et en demain, ou pas tant que ça, en tant que scientifique averti que vous êtes ?
C'est une question... assez compliqué, je dirais. Enfin, il ne faut pas être non plus tout pessimiste. Je pense qu'à un moment, on va toucher le fond et j'espère qu'on va pouvoir remonter à la surface. Mais pour l'instant, c'est Steve Widdicombe de l'Université de Plymouth. Il utilise souvent une image qui dit qu'on est en train de se précipiter vers un mur en voiture et on continue d'accélérer. Et ça, c'est quand même la réalité. Les émissions ne freinent pas assez vite. On a déjà des années et des décennies de retard. On aurait dû s'y prendre beaucoup plus vite. Mais après, il y a quand même une prise de conscience qui se met petit à petit peu dans notre société. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent compte des dommages que l'on fait, que ce soit pour le climat, pour la biodiversité, et qui veulent agir. Donc j'espère qu'on va s'en sortir un moment. Après, la vie marine, que ce soit marine ou terrestre, ne va pas disparaître, hein. Mais c'est nos sociétés qui doivent s'adapter à ces nouveaux écosystèmes.
Alors, juste parce que je suis une éternelle optimiste, parce que je suis curieuse et parce que j'aimerais qu'on finisse sur une touche un peu différente, vous nous embarqueriez l'espace d'une minute au sein d'une expédition Tara-Pacifique pour nous dire comment ça se passe, pour nous faire vivre cette expérience à vos côtés, comment ça s'organise, sur quelle échelle de temps, avec combien de collaborateurs, comment on se répartit le boulot?
Alors,
une minute ou deux.
Terre Pacifique, c'est 200 participants, 24 coordinateurs scientifiques et 2 directeurs, hein, Denis Allemand et Serge Plain. Et c'est toute la fondation Terre Océan, le bateau, bien sûr, et donc tout l'équipage. Et c'est 33 îles visitées, 2 ans de campagne d'échantillonnage, des milliers d'échantillons. Et après, ça va faire 5 ans de séquençage d'ADN et d'analyse de données. Donc c'est vraiment un gros, gros, gros projet. C'est un des plus gros projets en général, hein, en science. Pas seulement en sciences marines, mais en science. Après, la vie sur le bateau, elle est quand même géniale. Là, au Japon, quand le bateau était au Japon, on a fait un mois d'éducation aussi. Où il y avait des écoles qui visitaient. Et là, les marins, l'équipage sur Tara, ils sont vraiment exceptionnels. les visites de bateaux, expliquer l'importance du corail, l'importance de l'écosystème. Les scientifiques aussi prêtent au jeu. Et après, on a fait un mois de recherche où on, là, c'est plongé le matin, l'après-midi aussi, et mettre les échantillons dans les bons tampons, les échantillons dans les congélateurs. Et après, il faut tout expédier et tout, c'est comme ça.
Ce fut un plaisir de vous avoir à nos micros, Sylvain Agostini. On vous libère au Japon où il est désormais plus de 19h, non sans vous embrasser. Et on vous dit à bientôt, peut-être en Corse.
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour m'avoir invité, c'était un plaisir. Et bien sûr, une prochaine fois et peut-être en Corse.
Et peut-être dans nos locaux, vous êtes déjà venu nous rendre visite.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Sabienza, chaque semaine sur RCFM.
Sorgente d'amore, Letizia Giuntini.
Sabienza, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
On reste en mer avec l'un des membres fondateurs de l'association Marevi, ou Pierre-Ange Duigeli. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Pierre-Ange.
Ravi de vous rejoindre pour parler de votre actualité avec la semaine dernière. Un cri d'alarme que votre association a poussé. La zone entre le Cap Corse et l'Italie est l'une des plus polluées au monde par les microplastiques.
Eh oui, bon, ça nous fait pas plaisir parce que nous, on est quand même des amoureux de la mer. Et, voilà, en tant que Cap-Corsin aussi, on aime parler plutôt de ce qui est beau, de ce qui est joyeux, de ce qui est, ce qui aspire le bonheur, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut pas ignorer une réalité qui est qu'aujourd'hui notre littoral est extrêmement impacté par la pollution plastique, notamment par la pollution microplastique. Et c'est pour ça que c'est en réaction à ce mal, on va dire, qu'on a voulu créer cette association il y a 8 ans maintenant. En 2016, et qu'on s'est mobilisé, et que depuis, on s'acharne vraiment, on met beaucoup d'énergie dans ce combat. Et on essaie surtout de mobiliser de plus en plus de monde, parce que, voilà, on se rend compte que la trajectoire qu'on a aujourd'hui n'est pas satisfaisante.
Fortement insuffisante.
Fortement insuffisante. Et surtout, le plus dangereux, c'est pas seulement qu'elle est insuffisante, c'est qu'elle elle est porteuse de désespoir un petit peu, parce qu'on a tendance plus à s'épuiser. On voit beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs qui s'investissent et puis ensuite ça périclite parce qu'en fait...
On s'essouffle.
On s'essouffle, exactement. On s'essouffle. Il n'y a pas forcément une bonne stratégie. Et donc, il y a des gens qui s'essoufflent, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui s'essoufflent. Et de l'autre côté, beaucoup d'acteurs qui ont des cartes très très intéressantes à jouer.
Côté pouvoir public par exemple ?
Côté décideur, public, économique aussi, les grands patrons, les grosses sociétés, c'est un levier intéressant quand même pour transformer un territoire. Et aujourd'hui, ces acteurs ne bougent pas suffisamment. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui bougent. Je dis juste que voilà, il y a de quoi faire. Je dirais qu'il y aurait une stratégie beaucoup plus intéressante à mettre en place pour que notre territoire... réalise une vision beaucoup plus ambitieuse pour lutter contre la pollution plastique.
Oui, et puis avec des fois des œillères ou alors des données qui nous dépassent parce qu'on cite des chiffres puis on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Il y a quand même une périphrase forte que vous utilisez, c'est cette idée de continent de plastique. Pendant longtemps, on parlait du 7e continent de plastique et puis on le situait quelque part là-bas. Voilà, il y a un truc qui flotte, ça fait quasiment la taille d'un continent. Mais vous dites qu'il est, en l'occurrence, ces continents de plastique sont très proches de chez nous et ce n'est pas forcément très très loin que tout ça se passe. Ça, ça marque bien l'esprit de parler de continents de plastique, des surfaces énormes.
Tout à fait. Alors... En ordre de grandeur, on est à peu près, d'après les données qui ont pu être collectées au large du Cap Corse, notamment, on est à 4 fois la concentration, entre 4 et 10 fois la concentration du fameux 7e continent du Pacifique, donc en Méditerranée. Donc c'est quand même impressionnant. Après, la notion de continent, c'est une notion qui renvoie à quelque chose de solide. Donc on imagine des macro-déchets qui flottent, presque on peut marcher dessus. C'est une vision qui a hérité d'un gros travail de communication qui a porté ses fruits, effectivement, parce que ça a permis de sensibiliser énormément de personnes.
Moi, c'est plus spectaculaire quand on les agrège, mais voilà. C'est pas la réalité.
Ça renvoie pas à la réalité. Aujourd'hui, en Méditerranée, c'est une soupe, et même au sein de ces fameux continents de plastique, c'est une soupe de microplastiques qui s'infiltre absolument partout, dans tous les compartiments, à la fois vivants et des plages, les processus sédimentaires. Et donc, ça veut dire que ce microplastique devient omniprésent. Et aujourd'hui, ce que racontent les chercheurs, c'est que les impacts de ces micro et puis même nanoplastiques sont très nombreux. On voit qu'il y a de plus en plus de papiers qui sortent, qui montrent, là, le papier le plus récent, c'était là, à la quinzaine de mars, un papier qui a montré que des nanoplastiques se retrouvaient dans le sang et que ça provoquait entre 4 et 5 fois plus d'incidence sur les infarctus et les AVC. Donc c'est très concret, on voit qu'il y a des impacts de ces micro- et nanoplastiques qui émergent, donc extrêmement inquiétant quand même.
Et on parlait souvent aussi de carte bleue, l'équivalent d'une carte bleue qu'on pourrait avaler en mangeant notamment des produits venant de la mer. Ça fait vraiment peur. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on est parfois, nous-mêmes, sur notre île, les fautifs ? Parce qu'on sait que la Méditerranée est très polluée. On parle de bennes, hein, rejetées toutes les secondes, l'équivalent d'une benne à ordures rejetées toutes les secondes. Mais on se dit aussi qu'il y a d'autres côtes qui sont peut-être celles qu'il faut montrer du doigt. Est-ce que c'est la réalité ? Ou est-ce qu'on n'a pas aussi un vrai travail à faire déjà depuis chez nous, sur nos propres côtes, avec nos propres déchets ?
Je dirais les deux, mon capitaine. Pourquoi ? Parce que effectivement, la Corse est un territoire qui est très peu peuplé quand on compare à d'autres régions méditerranéennes. Certes, il y a un gros tourisme en saison estivale, mais quand même peu industrialisé. Donc, on va dire qu'à l'échelle de la Méditerranée, on génère assez peu proportionnellement de déchets. Et donc, on est plutôt un territoire qui, parce qu'on est situé là où on est situé, reçoit énormément et plutôt subit cette pollution plastique. Maintenant, est-ce que c'est une solution de pointer du doigt son voisin tout en ne faisant pas en sorte d'être exemplaire ? Moi, je pense que la position de la Corse, ça serait plutôt d'avoir l'ambition de réaliser une vision, voilà, de dire on n'est pas d'accord, on subit la pollution plastique, donc on est bien placé pour s'opposer à ce qui est fait actuellement. Donc, en gros, pour le dire très concrètement, hein, la plupart de la pollution plastique, c'est du plastique à usage unique. 90% des plastiques qu'on collecte, c'est des plastiques azogéniques. Donc on n'est pas d'accord avec ce système-là. Donc au contraire, montrons qu'on peut fonctionner différemment, qu'il y a énormément aussi de co-bénéfices, parce que du coup, qui dit moins de plastique azogénique, dit que c'est un approvisionnement plus local aussi. Donc mettre l'argent vers une économie plus locale. Et montrons l'exemple en fait. Et du coup, inspirons les autres territoires méditerranéens à faire de même. et sachant qu'il y a déjà énormément de territoires en Méditerranée qui portent des projets similaires et qui avancent en fait, qui avancent dans le bon sens. Et nous, ce qu'on aimerait, et c'est pour ça que on le dit aussi, c'est une forme d'optimisme, on aimerait que la Corse ait ce rôle-là, ait cette ambition, prenne ce travail au sérieux et qu'on y aille, quoi.
Mais du coup, concrètement, Pierre-Ange Duigeli, pour tendre vers ce changement de paradigme que vous appelez de vos voeux, quelle stratégie on met en place en fait, et auprès de qui?
Et ce qu'il faut, c'est arriver à ce que, un peu comme dans un orchestre, chacun joue son rôle, joue sa partition. Aujourd'hui, on est dans un paradigme où on met beaucoup la charge sur le dos de l'individu. Donc on culpabilise aussi quelque part l'individu. Sauf que on est une société. Et donc dans cette société, il y a certes les individus voilà, qui ont leur quotidien, puis après il y a ce que je dirais les acteurs, notamment associatifs, qui rassemblent des individus qui ont un levier important. Mais encore au-dessus, il y a les décideurs. Il y a les décideurs économiques, donc les patrons d'entreprises qui emploient des gens, etc., qui participent à l'économie, et les décideurs politiques qui organisent aussi la société. Et aujourd'hui, c'est évident que au sein de cette pyramide inversée, je dirais, les rôles ne sont pas répartis de la même façon. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup plus d'attentes de la part des décideurs, notamment des décideurs des politiques publiques, par exemple, d'organiser et de faciliter le choix. Je vais prendre un exemple très concret. Si moi, je fais le choix, je suis un citoyen engagé, je suis concerné par la pollution plastique, je fais le choix de ne plus boire d'eau en bouteille plastique. Donc j'ai ma gourde que je trimballe un peu partout pour boire. Dans mon entreprise, par exemple, il n'y a pas de système pour pouvoir remplir ma gourde facilement, ça va être compliqué. Donc, je vais galérer, je vais peut-être même m'épuiser parce que je vais faire ça peut-être 2 semaines, 1 mois, et puis au bout d'un moment, je vais en avoir marre. C'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Maintenant, si l'entreprise fait le choix de mettre à disposition un endroit pour remplir ma gourde, ce choix est facilité. Et pourtant, c'est venu de l'initiative de mon patron, par exemple, qui a encouragé ce geste. De la même façon, si au sein de ma commune, je peux remplir ma gourde un peu partout, parce que ma commune a décidé de mener quelque part une bataille contre les bouteilles plastiques et a décidé de réhabiliter des fontaines publiques, par exemple, de communiquer sur la potabilité de l'eau. Aujourd'hui, on discutait avec l'ARS il n'y a pas si longtemps que ça, plus de 90% de la population a accès à de l'eau de qualité potable. Donc pourquoi autant d'utilisation de bouteilles plastiques? Enfin, c'est un peu problématique. Mais en tout cas, si la commune fait le choix d'organiser la société de telle manière à ce que le citoyen puisse sans trop...
où aller voilà, sans trop consommer de l'eau correcte.
Voilà. Et on se rend compte que nous, pendant des années, Marie-Huy, on était tellement pris dans ce sujet, on voulait tellement agir que quelque part, on a cette dérive-là de vouloir se substituer presque au travail qui incombe aux collectivités, aux gestionnaires, etc. Et on s'est dit, non, en fait, c'est pas du tout notre rôle. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à embarquer, à faire la pédagogie du problème et embarquer et mettre les gens dont c'est la responsabilité, pardon, en face de cette responsabilité-là et de les accompagner.
Vous sentez notamment quand vous intervenez auprès du jeune public qu'il y a une vraie sensibilisation assez aisée et que là, il y a des enfants déjà quasiment naturellement engagés chez nous?
Alors, c'est totalement ça, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce qui nous redonne beaucoup d'espoir. Et on est intervenu, on a fait une petite conférence samedi à Lourdes, qui était très intéressante, et on citait justement l'exemple de la commune de Brande, où on est intervenu, et en fait, quand on a préparé cette conférence, on s'est rendu compte que la commune de Brande, l'école d'Herbalongue, en quelques mois, ils ont fait plus que ce qu'a fait Marie-Huy en 7 ans, en fait. Pourquoi? Parce que ils ont choisi de prendre une problématique. Donc, c'était justement sur il y a eu une classe sur les bouteilles plastiques et une autre classe sur les mégots. Et la classe qui a travaillé sur les mégots, ils ont travaillé, ils ont essayé de voir à l'échelle de leur territoire comment étaient impactés les différents endroits de leur commune. Et ensuite, d'imaginer des actions à l'échelle de leur commune à mettre en œuvre. Notamment, ils ont fait installer, ils ont demandé un entretien avec le maire de la commune, et ils ont fait installer des cendriers de récupération de mégots au niveau d'un terrain de boules, parce que c'était un endroit où il y avait énormément de mégots.
Beaucoup de déchets.
Énormément, voilà, des joueurs de boules qui étaient très, très actifs. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils ont agi. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait un problème sur leur commune, et en fait, ils l'ont réglé.
Ils ont apporté une solution.
Ils ont apporté une solution. Et donc, nous, quelque part, on a un petit peu accompagné cette école. Mais
Sans vous substituer à l'action citoyenne.
Exactement, exactement.
Et ça, c'est vecteur d'espoir.
C'est vecteur de beaucoup d'espoir, parce qu'on se dit... Et justement, quand on a eu le retour de cette conférence, on a créé un petit formulaire. C'était un formulaire pour un groupe d'initiative locale. C'est-à-dire que dans chaque commune, créer des petits groupes qui sont intéressés de s'engager sur la problématique plastique et de communiquer du coup avec Maréwi ou avec nous pour qu'on les aiguille sur peut-être des actions adaptées à des problématiques qu'ils rencontrent sur leur territoire. Qui de mieux qu'un habitant, qu'un résident de la commune pour agir et pour se rendre compte vraiment d'une problématique de son territoire.
Et qui de plus sensibilisant pour un élu, par exemple, que des enfants qui viennent le voir.
Exactement.
En lui disant, exactement. Nous, on aimerait que ce soit comme ça.
Ah, c'est l'arme.
C'est sûr,
fatale.
Ça fait craquer.
Fatale, exactement.
Pierre-André Jelly, merci beaucoup d'avoir partagé votre enthousiasme aussi à nos micros dans Sapiens. Et bravo pour ce que vous faites.
Merci.
Le magazine de la connaissance et du savoir hebdomadaire pour aujourd'hui. C'est fini, mais vous en vivrez un nouveau lundi prochain à 13h et 21h, si Dieu nous prête vie,
ben oui.
Comme dirait ma grand-mère. Et en podcast, c'est quand vous le voulez sur bleurcfm.fr, Fabrice.
Oui, avec grand plaisir de vous retrouver très très bientôt.